De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama avec aujourd'hui des films qui sont dans les salles depuis le 11 décembre et puis un peu avant. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Un gros sommaire encore aujourd'hui. Avec toi Marine, trois films.
Oui, alors moi je vais vous parler d'un petit feel good movie de Noël, c'est Docteur de Tristan Seguela, un film un peu moins feel good movie, Sympathie pour le diable qui se passe pendant la guerre de Sarajevo et également un documentaire qui s'appelle Indiana qui se passe au Brésil.
Et putain Manu, aussi un film québécois.
Jeune Juliette, après cette année qui était sortie Charlotte à 17 ans, un nouveau teen movie. Et puis je vous parlerai du nouveau film d'Elia Souleyman, It Must Be Even.
Alors après les blind tests, après les interviews dans Cinérama, on a les entretiens, c'est un peu différent. Là j'ai rencontré un professeur et chercheur en cinéma pour parler de Une vie cachée de Terrence Malick. Donc voilà, on fera un gros plan sur ce film que j'avais vu à Cannes et que j'ai apprécié et qui est en salle donc depuis le 11 décembre. Ainsi débute Cinérama.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Je peux pas bosser ce soir.
Faut que je dise comment, t'es tout seul.
Bien l'esprit de Noël hein.
Y'a personne pour vous remplacer? Bonsoir, c'est le docteur Nanounani.
Mamou Mani, bordel.
On commence juste avec Docteur de Tristan Seguela. Nous sommes le soir de Noël. Serge est un médecin fatigué, vieillissant, très porté sur la bouteille et qui ne fait plus son métier avec passion. Alors qu'il est le seul de garde pour SOS Médecins et que se profile devant lui une très longue nuit, il est pris d'une violente sciatique. Quand il croise la route de Malek, un livreur Uber Eats, il a l'idée d'envoyer le jeune homme à sa place en consultation, tout en le guidant grâce à une oreillette. Le duo va ainsi aller de gaffe. En quiproquo.
Et j'ai très très mal au ventre, ça me fait comme des coups de poignard. Bah on peut peut-être essayer de vous éviter l'hosto.
Et plus c'est Noël, non?
Fais gaffe mon pote, tu sais pas dans quoi tu mets les pieds.
Il a un bouchon qui lui obstrue le rectum.
Est-ce que vous pourriez être un peu plus clair? Ça arrangerait tout le monde s'il vous plaît.
Il a de la merde séchée qui lui bouche le trou du cul.
Et toi tu viens de lui proposer de le déboucher, c'est clair comme ça?
Beaucoup trop.
Si on n'a pas réalisé un film avant ses 40 ans, on a raté sa vie. C'est ce qu'a dû se dire le réalisateur de Docteur Tristan Seguela, le fils de Jacques. Bon alors, en fait, la blague ne marche pas du tout, hein, puisque Tristan Seguela a réalisé avant Docteur un teen movie intitulé Rattrapage, mais qu'il préfère, je pense, oublier, ainsi que le dispensable 16 ans ou presque avec Laurent Lafitte. Pour Docteur, il confronte à l'écran deux générations de représentants, on va dire, de l'humour, hein, histoire de maximiser les entrées du film en cette période de fête. D'un côté, Michel Blanc, emblème de toute la génération débronzée, ensuite devenu le comédien que l'on emploie systématiquement quand il faut interpréter un râleur, avec Jean-Pierre Bacri aussi. De l'autre côté, eh bien, Hakim Djimili, qui fait partie du Jamel Comedy Club, qui officie sur YouTube et qui est très connu, lui, de la nouvelle génération. Pour vous donner un ordre d'idée, Hakim Djimili, c'est plus de 500 000 followers sur Instagram, et Michel Blanc n'a pas Instagram. Bref, ce duo improbable fonctionne plutôt bien, hein, malgré le fait que les blagues autour du jeune livreur d'origine maghrébine, gentiment demeuré, fassent un peu grincer des dents quand même, malgré quelques sketchs lourdingues et assez clichés. Docteur, c'est un buddy movie qui se laisse regarder sans déplaisir. Moi, je ne me souviens pas personnellement avoir été hilar durant 1h30, mais ce feel good movie, un poil bien pensant, a le mérite de vous faire passer un bon moment. Et finalement, eh bien, c'est ce que l'on demande au film en cette période de fête.
Oui, voilà, c'est la comédie de Noël et c'est la seule pour l'instant hein, qui est en liste hein, pour ce titre de comédie de Noël, comme chaque année. On va aller vers un autre humour, me semble-t-il.
Hein, beaucoup oui. Plus noir, hein, pas
portrait,
très Noël.
Portrait satirique de la folie du monde, ai-je lu sur Culture au Point, un site que tu connais bien, Manu. Allez, on va parler de It Must Be Even, de Elia Souleyman.
This is Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Alors derrière ce titre ironique, hein, de quel paradis veut bien évoquer Elia Souleyman, hein, de retour derrière la caméra, après 10 ans d'absence. Alors si on accepte un segment du film à sketch, 7 jours à la Havane. Alors sans doute, de manière on va dire hypothétique, des terres d'accueil recherchées par le cinéaste. Après intervention divine et le temps qu'il nous reste, It Must Be Even clôt temporairement un triptyque sur l'état du monde contemporain perçu à travers le regard singulier et décalé du double, enfin du faux double, d'Elia Souleyman qui interprète interprète son propre rôle. Alors le Suleiman du film, c'est à la fois lui et un autre, un personnage de fiction emprunté au réel le plus intime de l'auteur, puisqu'il s'agit de lui-même, un peu comme Charlot chez Chaplin ou Hulot chez Tati, des références écrasantes mais qui trouvent une résonance juste à la vision de ce très beau « It Must Be Heaven ». Elia ressemble par ailleurs étrangement davantage, à Buster Keaton, silhouette un peu perdue, au regard mélancolique, observant ses compatriotes, tel un entomologiste qui étudierait les insectes, avec une élégance détachée et triste. Alors après un prologue mystérieux, hors propos, mais bon, si on y réfléchit, après on peut trouver des connexions, qui est une critique féroce de la religion, le film débute en montrant Elia au quotidien, dans sa maison, vacant à ses occupations journalières répétitives. Alors lassé par sa terre natale, il fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle patrie, un peu comme le héros de synonyme de Nadav Lapid qui est sorti cette année, mais dans un contexte différent. Il débarque dans une France dépeuplée, vidée de sa substance et de son humanité, représentée symboliquement parce qu'elle représente finalement de moins reluisant. Alors même lorsqu'il filme des professionnels de la santé venant en aide à un SDF, il n'enregistre que la part mécanique, aliénée de la tâche, sans affect. Il croque des scénettes surréalistes, chorégraphiées à la perfection, brossant un portrait déprimant et cruel de nos sociétés égoïstes et libérales encadrées par des lois absurdes, une répression ridicule et un culte de l'individualisme décomplexé. À l'image de cette séquence qui est quand même à la fois terrifiante et en même temps hilarante, où des gens guettent dans un parc la chaise à subtiliser à l'autre pour son confort personnel. Alors, ou encore ce magnifique ballet de flic, on dirait presque un dessin animé à ce moment-là, poursuivant un trafiquant déposant un bouquet de fleurs sous une voiture. Alors sans fil conducteur particulier, égrené d'idées graphiques parfois sidérantes, rappelant le trait affûté de certains dessinateurs de bandes dessinées comme Marc-Antoine Mathieu, Elia Suleiman se fait le témoin de notre époque désolante, même s'il ne renonce pas à l'humanité. Même constat lorsque le réalisateur s'exile à New York, après Paris. Il enchaîne une série de mini-sketchs cinglants et drôles, parmi lesquels on retiendra surtout le moment où Suleiman rêve, cauchemar davantage, d'une ville où tous les habitants, y compris les enfants, portent une arme. Alors ça va de la simple arme au gros bazooka, poussant jusqu'au paroxysme la dimension cauchemardesque d'une situation folle, pourtant pas très loin de la réalité. Alors à travers son périple douloureux, sorte de carnet de voyage tragico-comique, Elia Suleiman interroge notre place de citoyen du monde et dresse un constat sombre de la situation actuelle. Quelques éclats humanistes ouvrent heureusement une bulle d'oxygène dans l'atmosphère asphyxiante de nos sociétés ultralibérales, en l'occurrence ici les États-Unis et la France. Alors le regard lucide du cinéaste passe par de vraies visions de cinéma, alors sublimées par un sens des couleurs et du cadre, de l'utilisation des décors et des corps dans ce même cadre. Il y a un vrai travail de mise en scène dans l'élaboration de cette succession de vignettes burlesques qui reprennent souvent des motifs esthétiques du cinéma de Jacques Tati, à commencer par l'importance du son et la quasi-absence des dialogues. On est surtout bluffé par cet esprit de synthèse qui, en un plan, parvient à en dire 10 fois plus que certains films en 1h30. It Must Be Heaven ressemble à un enchaînement, alors parfois trop mécanique, d'aphorismes visuels, un peu comme si Sioran avait troqué sa plume pour une caméra. Mais un Sioran moins nihiliste, laissant traîner quelques lueurs d'espoir esquissées par un épilogue émouvant où le réalisateur, sirotant un verre dans une boîte de nuit, contemple une jeunesse palestinienne en train de s'éclater. Alors tout n'est pas perdu, se dit-on, pour ce pays opprimé depuis de nombreuses années. Alors laissons le mot de la fin à cette phrase essentielle qui résonne encore après la projection. Tout le monde boit pour oublier, vous les Palestiniens, vous buvez pour vous souvenir. C'est aussi la force de ce film de parler de la situation politique du pays sans jamais évoquer une seule seconde le conflit israélo-palestinien de façon directe ou indirecte, préférant la mise en abîme, les métaphores et autres allégories burlesques.
Voilà, Sioran et Marc-Antoine Mathieu cités pour le même film, donc un auteur de BD et puis... Un écrivain. Elia Suleiman, It Must Be Heaven, donc en salle depuis le 4 décembre maintenant. Eh bien, on parle de Paul Marchand, le journaliste au cigare.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Cela fait bientôt 7 mois que Sarajevo survit sous une pluie d'obus, sous l'œil impassible de la communauté internationale.
Paul Marchand à Sarajevo pour France Info.
Paul Marchand à Sarajevo pour Radio-Canada.
Paul Marchand à Sarajevo pour RTBF.
Ça va passer tôt ou tard, ne vous inquiétez pas.
Ne vous inquiétez pas,
vous savez très bien ce qui se passe.
Paul Marchand est reporter de guerre, correspondant à Sarajevo. Nous sommes en novembre 92 et les Serbes assiègent la ville au cours de ce qui restera le siège le plus important de l'histoire moderne, au cœur d'une guerre qui fera plus de 100 000 morts et 2 millions de déplacés et de réfugiés.
Aujourd'hui, des jeunes hommes, des femmes ont tenté de défendre un quartier du nord-ouest de Sarajevo. À bout de munitions, ils ont été massacrés par les soldats serbes. Encore un cri d'alarme qui restera silencieux pour la communauté internationale.
Non, je change rien, pas un mot, pas une virgule, rien. Putain, on n'est pas ici pour parler, on est ici pour parler d'eux, merde!
Guillaume de Fontenay signe ici son premier film à l'esthétique documentaire soignée, tourné au format 4 tiers comme l'image télévisuelle de l'époque. Un film intense, ultra réaliste, tourné à Sarajevo et empreint d'une tension palpable. En suivant Nils Schneider, qui joue Paul Marchand, reporter grande gueule qui cache sa sensibilité derrière un cynisme outrancier, on découvre d'abord le quotidien de ces reporters sur le front. Le film a d'ailleurs été écrit d'après les mémoires du journaliste qui s'est suicidé en 2008 dans un pays où le fait d'avoir une caméra et un micro est supposé être la seule chose qui vous empêche d'être tué, et encore. Tous les jours, Paul, au volant de sa voiture, conduit sur l'avenue dite des snipers le plus vite possible pour éviter les balles, son éternel cigare à la bouche pour aller jusqu'aux lignes ennemies. Tous les jours, il va compter les cadavres à la morgue, il se lave à l'eau froide dans un vieil hôtel réquisitionné pour les chaînes de télé et de radio et partage quelques parties de cartes avec ses confrères à la lumière des bougies. Et puis, tout va progressivement basculer lorsque Paul rencontre une interprète serbe jouée par Ella Rumpf, comédienne qu'on avait découverte dans Grave de Julia Descourneaux. Peu à peu, il tombe amoureux et découvre la vie des habitants de Sarajevo autrement, hors des caméras, et continuer à témoigner des horreurs de la guerre devient de plus en plus difficile. Le film est vraiment réussi, très documenté, très immersif aussi, et puis il a le mérite de rappeler à notre souvenir une guerre récente et géographiquement proche que l'on a tous connue justement à travers les images qui nous étaient transmises par ces journalistes. Et puis c'est une guerre finalement qui n'a pas inspiré tant que ça les cinéastes. Il y a eu en 2015 Perfect Day, un film qui suivait une équipe d'humanitaires sur une seule journée. Il y a eu également Au pays du sang et du miel, le premier film réalisé par Angelina Jolie. Sympathie pour le diable en optant pour le point de vue d'un journaliste nous livre un témoignage précieux sur ce conflit et montre également les aspects les moins reluisants de ce métier sans angélisme, comme l'addiction à l'adrénaline et la recherche d'images et de sensations fortes. C'est un film très brut, un film très fort, moi que j'ai beaucoup aimé, que je recommande vraiment. Dépêchez-vous de le voir, je pense que c'est la dernière semaine à mon avis où il sera encore en salle.
Ce film est en salle depuis fin novembre, ce qui n'est pas le cas de Une vie cachée de Terrence Malick, présenté à Cannes cette année. Il est en salle depuis le 11 décembre.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Présenté à Cannes cette année, mais reparti bredouille de la croisette, Une vie cachée de Terrence Malick a été plutôt bien accueilli. Dans la salle cannoise, il a flotté quelque chose qui ressemble à un silence signifiant. Malgré le générique qui est tombé, on est encore dans le film, ou déjà plus dans le film, mais dans ce qu'il a pu révéler en nous et les questions qu'il a posées. Disons-le tout de suite, ceux qui connaissent Malick retrouveront la patte Malick, un cinéaste reconnaissable entre tous par son souci de la lumière, du cadre serré quand il y a des personnages, ouvert à l'extrême quand il s'agit de paysages, et bien sûr cette voix off qui permet de marquer l'intériorité du personnage. Alors j'aurais pu dire tout le bien que je pensais de ce long métrage qui prend son temps, mais j'ai préféré rencontrer un professeur de cinéma qui depuis maintenant 4 ans donne un cours sur Terrence Malick a des élèves de deuxième année en fac de cinéma. Il s'agit de Yann Hervé et comme il ne pouvait bien pas venir à nous, je suis allé à sa rencontre. Il s'est intéressé à Terrence Malick depuis The Tree of Life et il nous raconte.
C'est de façon complètement hasardeuse en fait. J'ai découvert The Tree of Life au Festival de Cannes en 2011 et j'ai eu le sentiment de découvrir quelque chose de complètement novateur sans trop savoir ce que j'avais en face des yeux, voilà. Donc il y a eu le désir d'en savoir un petit peu plus et donc de commencer à faire un travail de recherche.
Alors dans les premières images de Une vie cachée, on sait qu'on est en face d'un Malick.
Sur l'aspect formel du film, c'est sûr qu'il y a une nouvelle fois ce qu'on peut appeler une patte malickienne, une esthétique assez forte qu'on remarque. Et ça s'explique parce que depuis The Tree of Life, Terrence Malick a finalement érigé un dogme cinématographique, un dogme on va dire visuel, assez contraignant et qu'on retrouve dans tous les films depuis The Tree of Life. Pour donner 2-3 exemples, c'est l'utilisation d'une caméra systématiquement portée en steadicam, l'utilisation d'objectifs grand angle, c'est-à-dire qui ne dépassent pas le 28 mm, ce qui fait qu'on a des plans qui sont très ouverts parce qu'il veut capter un maximum de choses. Donc ça, c'était pour les similitudes. La différence, c'est peut-être que à partir de Tree of Life et jusqu'à Song to Song, on avait une espèce d'épure au niveau de la narration. qui a pu fortement déconcerter et les spectateurs et la critique, et qu'on ne retrouve pas ici. Il est revenu à une narration beaucoup plus simple et pour ainsi dire linéaire.
Une vie cachée met en scène un refus catégorique, celui d'un paysan qui, avant la guerre dans les alpages autrichiens, refuse de rejoindre les troupes hitlériennes pour des raisons éthiques. Est-ce étonnant que Terrence Malick s'intéresse à un tel sujet ? Selon Johan Hervé, il suffit de repenser à la désobéissance civile de David Thoreau.
Absolument pas, parce que la vie de ce paysan là, qui s'appelle Franz Jägerstätter l'intéresse parce que, et ça, c'est un peu mon hypothèse, ça rejoint l'histoire d'un philosophe transcendantaliste du 19e siècle qui a eu en gros à vivre la même chose, c'est-à-dire refuser de payer un impôt. À l'époque, c'était un impôt qui était pro-esclavage, on peut dire pro-esclavagisme. Le philosophe qui s'appelle Thoreau a refusé de le payer et a été emprisonné. Donc, c'est un thème qui est fort chez Malick, parce que c'est cette idée qu'au bout d'un moment, l'individu peut, en son âme et conscience, dire totalement non et à aucun moment essayer de rebrousser chemin. On le voit dans ce film-là, tout le monde essaye de le convaincre. Il s'agit finalement de signer qu'un papier qui n'a finalement aucune viabilité, on va dire, d'un point de vue des idées du paysan, de Franz Jägerstätter. Mais lui s'y refuse parce que c'est sa conscience qui serait, on va dire, mise à mal si jamais il signait ce papier. Et c'est ça qui est intéressant dans le cinéma de Malick et qu'on retrouve depuis The Tree of Life aussi, c'est cette idée que finalement, systématiquement, les personnages qui sont portés à l'écran sont des personnages dont on essaye de nous montrer l'intériorité, la conscience, à travers un ensemble de procédés plus ou moins complexes, en particulier l'utilisation des voix off. Et c'est ça qu'on a ici, simplement.
Encore une fois, cette intériorité apportée par une caméra à hauteur d'homme et une voix off est mise en relation, contrebalancée avec la nature, des séquences de nature en elle-même, sans humain. L'occasion pour Johan Hervé de nous soumettre une seconde hypothèse.
Ça, c'est une des spécificités aussi de l'esthétique du cinéma de Malick. C'est ce qu'on a pu appeler tout simplement des plans de nature, dans lesquels soit ce sont des paysages qui sont montrés vierges de toute présence humaine, soit aussi des plans d'animaux. Voilà, on voit des animaux qui sont là toujours à proximité des protagonistes, qui n'ont aucune fonction narrative première. Et alors, pourquoi est-ce que Malick fait ça ? Tout simplement, ça serait encore une fois mon hypothèse, c'est-à-dire que cette nature-là, il essaye de montrer qu'elle est toujours le signe d'autre chose, en fait. Que les êtres humains se sont un peu repliés sur eux-mêmes culturellement. Ils ont oublié qu'ils faisaient partie d'un tout qu'est cette nature. Et il a besoin de nous montrer que cette nature, elle est là, et qu'elle est le signe aussi d'autre chose. Et cette autre chose, à mon avis, c'est un signe profondément divin. C'est-à-dire que toute chose participe de la création divine et est là à titre de création divine.
I had a dream. I thought that we could build our nest high up in the trees. Fly away like birds to the mountains.
Alors, les films de Malick ont eu une fortune diverse en salle. Les derniers ont été de véritables fours compte tenu du casting qui les accompagnait. Même en mettant Christian Bale, Michael Fassbender, Natalie Portman ou Ryan Gosling, cela n'a jamais suffi à dépasser les 80 000 spectateurs en France, contrairement à Tree of Life ou Le Nouveau Monde, qui ont été de beaux succès. Mais peut-être que La Vie Cachée peut intéresser un plus large public avec un film débarrassé de certains tics formels. Ce nouveau film peut-il être consensuel ?
Je pense qu'il peut l'être, et je pense aussi que c'est ce que Malick recherche, puisque après le tournage de Song to Song, donc son avant-dernier film, il a dit que son cinéma, il était arrivé à une sorte de paradoxe. Il avait formulé en ces termes « Mon cinéma s'apparente au problème de la quadrature du cercle, en fait, finalement. J'essaie de faire des choses et je vois que ça ne marche pas. » Donc, il a pris un nouveau virage, surtout narratif. Ce qui pouvait déplaire dans ses précédents films, à partir de Tree of Life, c'est peut-être d'avoir cette narration qu'on peut qualifier d'éclatée. C'est-à-dire qu'on nous montrait surtout essentiellement des moments qui pouvaient apparaître décousus les uns des autres. Voilà. Il n'y avait pas véritablement de début, de fin, tout au moins en apparence. Et c'est peut-être cet aspect narratif complexe qui déplaisait aux spectateurs. Là, encore une fois, on a finalement l'avis d'un objecteur de conscience qui est porté à l'écran. Du moment où il a commencé à dire non à Hitler jusqu'au moment fatidique, puisque on le connaît, c'est un personnage qui a historiquement existé, il sera décapité par les nazis. Donc là, on a une narration, si je puis dire, beaucoup plus linéaire. On part bien d'un point A, on va bien à un point B, ce qu'on n'avait pas dans ces derniers films.
Alors on peut apprécier Terrence Malick, mais il y a quand même quelque chose qui agace Johan Hervé, c'est la dimension religieuse qui viendrait un peu trop dans ce dernier film, remplacer la dimension spirituelle qui transpirait auparavant dans la représentation de la nature.
Moi, ça m'agace. Pourquoi ? Parce que finalement, je pense que même si Dieu a toujours été présent dans la plupart des films de Malick, finalement, il était présent de façon secondaire. Voilà. Il était montré à travers la nature, comme on vient de le dire, et non pas pour lui-même. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que Dieu, la religion, sont présents pour eux-mêmes dans tous les films de Malick. Et son prochain film sera consacré à la vie de Jésus, et on voit comment il va boucler la boucle, si je puis dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il en revient à des idées qu'il avait laissées de côté initialement.
Mais ne boudons pas notre plaisir, d'autant que pour ce film admirablement maîtrisé, bien le Texan Malick quitte les États-Unis pour l'Europe et nous emmène dans la résistance contre les nazis, là où on ne l'attend pas forcément. Et on peut dire aussi qu'en France, on n'a pas forcément l'habitude de voir des films sur ce thème-là, puisque nous, on voit plutôt des films sur la résistance des Français face à l'occupant allemand.
Ce qu'il y a d'intéressant dans Une vie cachée, je pense, c'est que Malick porte à l'écran donc la vie cachée d'un personnage donc, qui a historiquement existé et qui est pourtant méconnu. Franz Siegerstatter, autrichien, a donc réellement existé. Sa vie est méconnue. Et en tant qu'objecteur de conscience, et surtout d'un point de vue éthique, d'un point de vue de morale, ce qui est développé est proprement intéressant parce que ça nous questionne sur, finalement, est-ce que nous sommes clairs avec nos idées ? Est-ce que nous sommes clairs avec nos engagements ? Est-ce que nous sommes clairs avec la vision qu'on a du monde ? C'est ça qui peut, je pense, intéresser. Et encore une fois, il s'agit, c'est ça qui est étonnant dans ce film-là, d'une période historique que n'a jamais traité Malick, qui est resté cinéaste américain très ancré à son territoire et qui, pour la première fois, sort un peu du territoire américain pour aller arpenter un autre territoire, en particulier ici l'Europe, pendant la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, j'espère que ça vous aura convaincu d'aller faire un tour en salle pendant près de 3 heures pour Une vie cachée de Terrence Malick. Vous pouvez lire une courte biographie de Terrence Malick très intéressante sur le site de Johan Hervé que vous venez d'entendre, et vous allez sur son site johanhervé.com. Allez, on va faire un tour du côté du Québec.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Je fais déjà assez niaisé de même, je vais pas me tenir avec le petit attardé en plus.
Je suis pas attardé, je suis le contraire d'attardé.
C'est toujours mieux avec les sous-titres, mais
on
aime bien
le film est sous-titré, hein, quand même. Hein. Alors l'ouverture de Jeune Juliette comme un écho pastichant Carrie, et oui, montre Juliette indifférente en pleine séance de gym devant un prof un peu ridicule. Cette brève intro est suivie d'un plan fixe où Juliette discute avec sa meilleure amie, Léane. Elle règle en quelques phrases le sort du monde, ou plutôt des membres du collège, qui représentent là le monde. Pas très intéressant pour elle. Alors, mais philosophe, elle termine bien par « faut que jeunesse se passe ». Alors la dynamique des deux séquences donne le ton et esquisse en 2-3 mouvements la personnalité de la jeune héroïne. Alors Juliette est donc cette fille ronde, brillante et détachée qui va faire l'expérience la plus terrible qui puisse arriver, tomber amoureuse d'une des coqueluches du lycée, leader d'un groupe de rock local. Mais ce jeune homme, Liam, est aussi beau qu'il est creux, une coquille vide qui n'empêchera pas Juliette de tenter sa chance, perdant un peu de sa lucidité habituelle. Dans son désir d'épouser une normalité, c'est aussi tout un apprentissage de la vie qui se dessine. Alors teen movie québécois qui arrive après le très beau Charlotte à 17 ans, sous la même influence vintage du cinéma précieux du regretté John Hughes, le réalisateur qui avait fait La folle journée de Ferris Bueller et Breakfast Club parmi ses titres les plus connus. Jeune Juliette ne cherche pas l'originalité à tout prix. Anne Aymon ne craint pas les archétypes et les clichés qui ont souvent une vérité profonde. Elle s'empare d'un genre et le traite frontalement avec tous les risques induits par le sujet. Elle accepte même les travers du genre, son côté fleur bleue et irréel, pour mieux s'approcher de ce qui fait exister un ado, de ce qui lui fait pousser des ailes, l'amour et l'amitié. Anne Aymon n'a aucun mépris pour la jeunesse, elle lui fait confiance, les lycéens s'expriment dans un langage correct, sans doute très éloigné du naturalisme qui plombe les teen movies actuels. Ils appartiennent aussi à une classe moyenne, ni pauvre, ni riche. Le réalisme intéresse moins, alors même n'intéresse pas du tout la cinéaste. Ce qui l'intéresse, c'est de toucher à une certaine justesse des sentiments et des rapports qui se tissent entre les adolescents, quitte à paraître anachronique. Il ne s'agit pas d'un film témoin de son temps, embrasant les thèmes sociologiques et politiques à la mode, à l'image de cette vision troublante d'un campus fantasmé qui a nourri l'imaginaire de bien des ados ayant grandi dans les années 80.
T'as pas mal, répète après moi.
C'est pas mal.
T'as pas mal.
C'est pas mal.
Cette dimension nostalgique, presque cotonneuse, avec ses enseignants bienveillants, ce père aimant, ses personnages positifs, pourrait virer à la sensiblerie. Ce que Anne Aymon évite intelligemment en ne faisant pas de Juliette un souffre-douleur, un prétexte pour délivrer un message bien pensant sur la différence et l'acceptation de soi. Derrière la chronique touchante d'une jeunesse qui se cherche, la cruauté n'est pas absente. Juliette n'y échappe pas, notamment lorsqu'elle repousse Arnaud, atteint d'une forme d'autisme, comme un doute d'elle-même, une anomalie dans un monde où elle a l'impression que tout le monde se ressemble. Ou encore lorsqu'elle se détourne de sa meilleure amie qui lui déclare sa flamme. Elle pensait être la seule à ne pas se sentir comme les autres, or elle prend en l'espace de peu de temps deux uppercuts, se rendant compte que l'autre est aussi différent et que le monde ne tourne pas exclusivement autour d'elle. Ce que lui rappelle son très attachant prof de lettres qui refuse de s'apitoyer sur son sort. Alors de cette histoire, on va dire semi-autobiographique, délimitée dans un espace-temps incertain, alors ni tout à fait hier, ni pleinement aujourd'hui, Anne Aymon explore l'intimité de cette jeunesse avec une délicatesse déployée par une mise en scène élégante, évoquant le style enjoué très ligne claire de John Hughes, avec ses plans fixes très travaillés, son montage précis, proche du cinéma burlesque au détour de quelques séquences très drôles, et ses cadrages insolites croquant en un plan des personnages comme dans une BD. Le film parvient à trouver sa singularité, dépassant la simple filiation avec l'auteur de Breakfast Club. L'utilisation du split screen aussi, et de la bande-son, assez fabuleuse et décalée. Moi, on entend des groupes comme Mercury Rave, Magnetic Fields ou Faust, ce qui est étonnant pour un film, pour un teen movie, apporte une coloration très pop à l'ensemble. En fuyant le pathos, jeune Juliette, séduit par son écriture fine et ses dialogues brillants, son désir de rester dans le giron confortable d'un cinéma innocent, loin de la violence et de la cruauté d'une certaine réalité contemporaine. Alors c'est aussi la limite de cette jolie fantaisie pleine de charme, ce bonbon qui manque parfois d'acidité malgré la méchanceté alors purement référentielle de ses camarades, des camarades de classe. Ne serait-ce que pour l'incroyable abattage aussi de la jeune comédienne débutante, Alexandre Jamieson, dans le rôle de Juliette, le film mérite le déplacement.
Et il est en salle depuis le 11 décembre. Allez, on termine avec une révolutionnaire brésilienne militante hors du commun, c'est Indianara.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Lorsque Aude Chevalier-Baumel, jeune documentariste française installée à Rio depuis une dizaine d'années, rencontre Indianara en 2014, une femme transgenre, profondément révolutionnaire, elle sait qu'elle tient là le sujet de son prochain film. À presque 50 ans, Indianara est une figure de la lutte pour les droits de l'homme. Aidée de son mari, elle recueille les transgenres jetés à la rue par leur famille, les soigne, les éduque, fait valoir leurs droits. Rappelons qu'on est au Brésil, le pays au monde qui détient le record d'assassinats de personnes transgenres. Et rappelons également que la politique actuelle depuis quelques années n'œuvre pas vraiment pour éliminer les inégalités sociales. Pendant 2 ans, Aude Chevalier-Baumel, aidée de son co-réalisateur Marcelo Barbosa, va suivre Indianara, la filmer, faire partie de sa vie et de celle de son couple pour montrer ses combats quotidien et tenter de cerner cette personnalité hors norme qui entend faire la révolution, je cite, avec de l'amour et de la bière. Et si ça ne marche pas, on cassera du verre et on jettera des pierres. La vie de Indianara est jalonnée de discours, de performances militantes, de petits et de grands combats, et surtout la vie de Indianara est étroitement liée à l'évolution politique de son pays. Au cours des 2 années que raconte ce documentaire, le Brésil va connaître 2 événements majeurs. L'assassinat de Marielle Franco, représentante du Parti socialiste et militante des droits LGBT, qui va provoquer une vague d'indignation, et bien sûr l'élection du nouveau président Jair Bolsonaro. Autant d'événements que l'on vit au travers du regard d'Indianara. La forme de ce documentaire est plutôt simple. La réalisatrice filme au plus près les visages, les corps surtout, qu'elle veut montrer triomphants. Les corps transgenres sont pauvres, marqués, abîmés, mais assumés. Pas de voix off, pas d'interaction directe entre la caméra, entre les réalisateurs et les personnages qu'ils filment. La caméra est un simple témoin qui nous conduit au cœur de la lutte. Le film aurait peut-être gagné à être un peu plus ramassé, il dure 1h40. Alors il s'est certes alterné entre moments de vie apaisée et grands discours militants pleins d'émotions, mais Aude Chevalier-Baumel, qui est pourtant journaliste également, semble parfois être dépassée par l'ampleur du personnage qu'elle filme. Indianara reste un documentaire important sur une femme pas comme les autres, mais aussi sur le Brésil d'aujourd'hui.
Vous avez fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
Bon, sauf si une copie nous vient de Russie du dernier Star Wars, on ne l'aura pas vu. Et sinon, moi j'aurais vu un film roumain après la nuit la semaine prochaine.
Et moi, Lilian, un film autrichien, et Millennium Actress, un film japonais.